Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, c'est simple. Toutes les journalistes politiques rêvent de ressembler à Catherine Ney et d'avoir sa carrière. Mais, n'est pas Catherine Ney qui veut. Catherine Ney, éditorialiste historique d'Europe 1 et auteur de biographies fameuses comme Le Noir et le Rouge, celle de Mitterrand, ou L'Impétueux, passons au scanner Sarkozy, eh bien Catherine Ney fait paraître chez Robert Laffont, Souvenir, une autobiographie qui épouse avec autant d'esprit que de panache la grande et la petite histoire de cette nation.
Europe 1.
Bonjour et bienvenue, chère Catherine, qui est ici chez vous.
Oui, oui. Et avec vous, Isabelle, bonjour et bonjour à tous nos auditeurs.
Alors vraiment, quelle est savoureuse cette première phrase qui laisse à deviner un destin singulier. J'ai quitté Périgueux parce que j'étais trop grande. C'est un effet de style ou bien le monde autour de vous était trop petit ?
C'est pas que le monde était trop petit, c'est que moi, j'étais une sorte de prototype. Ouais, en tous les cas, en classe, je n'avais aucune amie qui avait ma taille. Les garçons n'étaient pas tous très grands, ce qui veut dire que je n'avais aucun succès. Et dans ma propre famille, si vous voulez, j'avais un grand-père maternel qui mesurait 1m90. Mais le reste de ma famille, était de taille moyenne. Donc, j'étais plutôt la plus grande même de la famille. Donc, j'ai toujours eu l'impression d'être adulte et toujours eu envie d'une indépendance, mais qui était sûrement liée à cette taille. Et mes parents ne se sont pas opposés à ce que je quitte Périgueux, parce que maman avait bien compris que je ne trouverais pas un mari à Périgueux et qu'elle savait que je voulais être journaliste. Je lui avais répété que j'en avais la vocation depuis l'enfance. Donc, mes parents avaient, grâce à ma taille, un préjugé de maturité.
Ouais,
si
ouais.
J'avais mesuré 1m50, il est possible qu'ils ne m'auraient jamais laissé partir, même avec une amie à Paris, seule.
Mais vous ne mesuriez pas 1m50. Alors, Catherine, ce physique d'impératrice qui regarde les grands fauves du haut de son presque 1m80, il a forcément permis d'établir un contact particulier avec les hommes de pouvoir, puisque depuis un demi-siècle, vous regardez les politiques les yeux dans les yeux et parfois même, vous abaissez votre regard jusqu'à eux. On est moins macho avec une femme qui maîtrise bien sûr parfaitement ses dossiers, surtout quand elle mesure près d'un mètre 80.
Bon, je ne sais pas si ma taille a fait qu'ils étaient plus ou moins macho. Je veux dire, j'ai eu la chance d'entrer à l'Express, d'être envoyée avec Michel Cotta et Irène Allier au Parlement. Parce que Jean-Jacques Servan-Schreiber, et c'est lui qui a voulu que des femmes entrent dans le journalisme.
Oui,
parce
il faut casser la légende hein,
c'est François Giroud,
mais pas du tout.
Pas du tout. Enfin, Françoise, vous savez, qui a eu une passion pour Jean-Jacques, voyait dans toute femme jeune qui arrivait à l'Express comme une potentielle rivale. Donc, ouais. Elle se méfiait beaucoup des femmes. Mais si Jean-Jacques voulait des femmes, elle était d'accord. Parce que pourquoi Jean-Jacques voulait-il des femmes à l'Express ? C'est parce que l'Express était un news magazine, c'était quelque chose de très moderne, de très nouveau au moment où j'y suis entrée en 67. Le journal existait depuis 4 ans. Mais Jean-Jacques pensait que pour intéresser l'ingénieur de Grenoble et le pharmacien de Carpentras, comme il disait, il fallait introduire dans les papiers politiques un peu de patte humaine, raconter
un peu de chair. Un peu de romanesque, et ça les femmes savent
et
faire.
Il a toujours pensé que les femmes avaient une intuition sans doute plus grande que les hommes. Et c'est vrai que quand nous sommes arrivés, Michel Cotta, Irène Allier et moi, à l'Assemblée nationale, je me souviens, il y avait à l'époque simplement 2 femmes. Il y avait Suzanne Gaillard, je crois que c'était son nom, qui était de France Inter, et Daniel Brehm pour la télévision.
Oui.
Donc, quand ils nous ont vus arriver, évidemment, ça a été un choc, mais je peux vous dire que 6 mois après, tous les journaux envoyaient des femmes. Vous voyez, donc ça a été une mode qui a été vite adoptée.
Alors, effectivement, depuis ont émergé les Raphaël Baquet, Anna Cabana, Nathalie Saint-Cricq, Anne Fulda. Vous pensez effectivement que les femmes décryptent autrement la politique ? C'est une réalité, ça ?
Ah oui, je crois. Mais oui, tous les noms que vous venez de citer, Anne Fulda, Raphaël Baquet, vous n'avez qu'à lire leurs papiers ou leurs livres. Je pense qu'elles y mettent, elles ont un regard plus romanesque et puis elles connaissent peut-être mieux la vie que les hommes. Hein, parce qu'elles ont une expérience, du vécu, une intelligence, une drôlerie. Hein. Quand vous êtes avec une amie, je veux dire, vous avez des conversations sur les hommes que vous n'avez pas avec, quand vous êtes avec un ami homme, quoi. Il y a quelque chose en plus.
Certes, mais les hommes ont des conversations sur les femmes aussi qui peuvent être assez spirituelles et impertinentes et drôles.
Ben, peut-être, mais je veux dire, ça ne se sent pas forcément dans leurs écrits, vous voyez. Voilà.
Alors Catherine Ney, on n'interviewe pas un homme politique comme on interviewe un chef d'entreprise. De quoi faut-il toujours se méfier avec un politique ?
Oh, qui ne vous raconte pas d'histoire, surtout, qui ne vous mène pas en bateau. Mais vous savez, c'est donnant-donnant. Je veux dire, nous, les femmes journalistes, on a besoin de rencontrer des hommes politiques pour qu'on puisse faire des papiers, informer le lecteur. Mais les hommes politiques, ils ont besoin des journalistes pour se faire connaître du grand public. Donc, je pense que le lien avec un homme politique, c'est de le voir souvent, quand même, pour...
Oui.
Et en fait, c'était ma politique, c'est de les voir, de les rencontrer, de les suivre, de les voir sur le terrain, de parler avec eux. À force, cette habitude crée un lien qui n'est pas du tout assujettissant.
Oui, bon, bien sûr.
Bon, qui ne permet, on garde
mais
son camp à soi.
C'est un regard d'enquêtrice.
Oui.
Mais il faut savoir où on place le curseur.
Et bien
où
voilà.
Peut s'arrêter la complicité.
Voilà. Et bien ça, c'est, je ne vais pas donner de leçons de journalisme à personne, mais ça, il faut le sentir, vous voyez. Par exemple, moi, je ne partirai pas en vacances avec un homme politique, sauf évidemment si je vais avec lui, ce qui m'est arrivé. Ni même inviter chez soi pour un week-end des amis, des
députés. Ça, c'est une déontologie.
C'est une déontologie... C'est comme ça que je l'ai pratiqué, mais je ne critique pas celles qui pratiquent autrement. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a une limite. Et puis surtout, vous voyez, ne pas chercher à trop voir les présidents de la République aussi. Moi, j'ai toujours préféré regarder les présidents de la République à travers les témoignages de leur entourage, de leurs collaborateurs, de leur famille, plutôt que d'aller les voir directement.
Alors, on a le sentiment que l'exercice du pouvoir politique est plus complexe, plus éprouvant, plus périlleux aujourd'hui en France qu'à l'époque de Giscard, de Mitterrand ou de Chirac. Comment s'en serait-il sorti avec les réseaux sociaux, la réactivité immédiate des chaînes d'infos et l'idéologie, j'ai envie de dire presque hystérique, de la transparence à une époque où tout le monde prend la parole, si aujourd'hui ils étaient au pouvoir?
Mais non, mais vous avez bien compris que l'ancien monde a disparu.
Totalement.
Ce qui s'est passé il y a 2 ans avec l'élection d'Emmanuel Macron... C'est un changement de la classe politique comme il n'y avait pas eu depuis 58. Vous voyez, il y a toute une génération qui est partie, une autre qui arrive, avec beaucoup d'inconnus qui peinent à se faire connaître. Les grands fauves ne sont plus là. Des numéros 2 deviennent des numéros 1. Je cite Richard Ferrand, des gens comme ça qui n'étaient pas connus comme numéro 1. Il y a toute une nomenclatura qui est en train de se construire, mais qui va avoir du mal... à avoir la densité romanesque de tous ceux dont je parle, parce que d'abord...
Parce que cette densité romanesque, elle ne peut pas exister dans la transparence absolue, c'est
ça ? Il y a la transparence, d'abord, ça c'est vrai, et ça on va y revenir, mais il y a aussi le fait que tous les grands fauves que j'ai approchés, que ce soit Mitterrand, Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, ce sont des hommes qui sont restés en politique pendant 50 ans. Qui ont connu des hauts et des bas, des succès, des déboires, qui ont souffert. Et donc, que le pays s'est apprivoisé comme étant un des leurs, voyez. Et quelquefois, on l'a élu au bout de 23 ans, qui de 23 ans, qui de 22 ans, parce qu'on sait qu'ils avaient souffert. Et avec l'idée, le pays, que quelque part, c'était son tour, voyez. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Avec, d'abord, le quinquennat, le non-cumul des mandats, les réseaux sociaux, les chaînes en continu... Les sondages quotidiens.
L'usure est rapide.
L'usure est rapide, plus la transparence. Alors là, c'est le summum, vous voyez.
Le goût du pouvoir, Catherine Ney, il est fait de quoi en fait ? Ces hommes et ces femmes croient tous en la postérité ? Leur postérité ?
Je ne sais pas s'ils croient en la postérité, je crois que ce sont quand même des caractères qui mettent une stratégie en place... qui peinent longtemps, faire des meetings, embrasser tout le monde. Enfin, il faut d'abord en rêver depuis longtemps. Avoir une énergie d'athlète de haut niveau. Non, mais c'est vrai, vous ne pouvez pas être fatigable. Regardez Chirac, Mitterrand, il était increvable. Chirac, Giscard, qui étaient tous ces grands fauves. Et regardez aujourd'hui Macron. Je veux dire, il peut parler 6 heures d'affilée, sans boire, sans transpirer, en se moquant pas mal si les maires qui sont venus, qui ont fait 300 km pour le voir, ont faim ou ont envie de faire pipi. Ils s'en moquent. Oui.
Vous auriez pu faire de la politique, Catherine.
Mais pas du tout.
Pas du tout. On ne vous a jamais sollicité ?
Une fois, Valéry Giscard d'Estaing m'a demandé d'être sur sa liste pour les élections européennes.
Et ça n'était pas votre préféré, hein ?
Non.
Votre préféré, c'est Pompidou.
Oui, on en reviendra. Mais quand Giscard m'a reçu pour me demander ça, il m'a dit, pour une fois que je vous propose quelque chose et vous me dites non. Mais j'ai dit, oui, mais j'avais aucune envie d'aller à Bruxelles. Non, je trouve que ce métier de journaliste... Et, vous voyez, on vit la politique, et on est dans un film, et dans le fond, on transcrit le scénario. Vous voyez, c'est ça un peu ce métier.
C'est passionnant. On fait une pause très courte, on trouve tout de suite Catherine Ney.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1. Europe 1.
Vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, le tête-à-tête du week-end d'Isabelle Morizet avec son invitée. Aujourd'hui, une journaliste politique qui publie ses mémoires.
Je reçois Catherine Ney qui fait paraître chez Robert Laffont Souvenir, souvenir, histoire d'une vie de journaliste politique qui se mêle intimement à celle de son pays. Catherine Ney, vous avez grandi dans les années 50, dans une maison où le malheur n'entrait pas. Ça, c'est dû à vos parents. Mais vous écrivez, je viens d'une enfance où on ne parlait pas la langue d'aujourd'hui. Tous ces mots anxiogènes, chômage, insécurité, immigration, réchauffement climatique, internet, réseaux sociaux, ne faisaient pas partie de notre vocabulaire. Bref, vous avez grandi en n'ayant peur de rien.
Sauf des araignées, oui, absolument. Oui, c'est vrai, c'était le temps de l'insouciance. D'ailleurs, c'était un mot que je ne connaissais pas parce que on le vivait sans, comme l'air qu'on respirait. On ne craignait rien parce que, vous vous rendez compte, moi, petite fille de province, je dis je vais être journaliste, ben, je ne doute pas. Puisque je voulais le faire, j'allais le faire. Et mes parents, dans le fond, non plus n'étaient pas très craintifs. Parce que c'était une période, vous voyez, au début des 30 Glorieuses. Moi, quand je suis arrivée à Paris, les premières rédactions, je voyais bien un journaliste qui se plaisait pas, il quittait le journal, il retrouvait un poste, une secrétaire pareille. Vous voyez, c'était quand même des moments de plein emploi. Mais Périgueux, dans les années 50, si vous voulez, d'abord, c'était une société qui était, si j'ose dire, absolument pas métissée. Autour de moi, c'était la même société avec des gens qui vivaient à peu près avec le même niveau de vie. Personne n'allait au sport d'hiver l'hiver, on allait l'été chez la grand-mère, quelquefois 8 jours à Arcachon.
Et tout le monde se retrouvait à la messe le dimanche.
Tout le monde se retrouvait à la messe le dimanche, il n'y avait jamais de cambriolage dans le quartier. On laissait les maisons ouvertes la journée et
sortait,
même les voitures ouvertes.
On sortait de la guerre. Oui. L'époque aurait pu être infusée par la peur parce que ceux qui étaient revenus des camps auraient pu transmettre justement cette terreur de toute forme de radicalisation et d'abord celle de l'antisémitisme.
Ah mais pas du tout. Mais vous savez, je le dis, ça peut étonner, je suis arrivée à Paris en n'ayant jamais entendu parler de l'Holocauste. Non parce que mes parents voulait le cacher, mais je crois qu'il ne le savait pas. Parce que mon père était abonné à Historia, et sur les méfaits du stalinisme, là, il y avait un papier tous les mois. Mais sur la rafle du Veldiv, les camps de concentration, il n'y avait rien. Il n'y a jamais eu rien avant le début des années 60.
Et comment est-ce possible ?
Eh bien, c'était comme ça, parce que les rescapés n'en parlaient pas à leur famille. Parce que les familles dont les parents avaient été exterminés vivaient comme une honte d'être vivants et ne pouvaient pas parler de ce qui était arrivé parce qu'au fond, ils ne savaient pas très bien, ils apprenaient peu à peu ce qui était arrivé, ce malheur incroyable. Et moi, j'ai découvert en 67 la rafle du Veldiv, ce qui m'avait absolument anéanti. Je veux dire, j'en avais presque fait des cauchemars, au point que je raconte que je passais souvent avenue Victor Hugo, où il y avait une petite boutique qui vendait des bijoux en or en vrac, c'était des petites chaînes, des petites bagues comme ça, et qui racontait un vécu. Mais alors, il y en avait une telle accumulation que je me disais, mais c'est les valises du docteur Petiot, vous voyez, donc je traversais parce que ça m'emplissait d'horreur. Mais vous n'imaginez même pas que Simone Veil, dont on connaît le passé douloureux, ô combien, eh bien, lorsqu'elle est devenue ministre, personne ne savait qu'elle avait été déportée. Quand elle a présenté la loi sur l'avortement, aucun député, et elle-même n'a raconté son histoire à la télévision qu'en 79. Elle-même disait que lorsqu'elle est revenue du camp, elle n'en parlait pas à ses enfants. Elle ne le disait pas pour les préserver.
Alors Catherine Ney, votre père, ingénieur des arts et métiers, dirigeait les ateliers SNCF. Il rêvait que son fils aîné fasse polytechnique. Bon, il a fait centrale, il est même sorti deuxième, pas mal du tout. Votre deuxième frère a fait médecine. Et puis vos jeunes frères jumeaux, dentaires. C'est votre père ou votre mère qui vous a mis dans la tête, à une époque où on parlait encore de faire de beaux mariages, n'est-ce pas, pour les jeunes filles, de ne jamais dépendre financièrement d'un homme ?
Non, c'est plutôt ma grand-mère et ma mère, vous voyez.
Ouais.
Parce que d'abord, ma grand-mère, ça a été une veuve en 1916. Mon grand-père est mort à Douaumont. Et il vivait à Richelieu, en Touraine. Et il avait été se former à Paris. C'est lui qui mesurait 1m90. Et il était, on dirait aujourd'hui, décorateur. En fait, il était tapissier. Il y avait des choses superbes, des grands rideaux pour les châteaux, les grandes maisons, et aussi des fauteuils. Et donc, il y avait des commandes d'un peu toute la France, vous voyez. Et donc, ça marchait bien. Il y avait 20 ouvrières à Richelieu. Et puis, mon grand-père est mort. Et ma grand-mère a pris la suite. C'est-à-dire qu'elle a fait partie de ces femmes de 14 qui se retrouvent veuves, ouais, et qui font marcher, ouais, la boutique.
Ouais.
Et elle mesure 1m55. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, un grand type épouse toujours une petite.
Souvent,
je sais pas,
c'est vrai.
Ça doit être pour rééquilibrer la race et tout ça. Bon. Et elle avait une énergie folle.
Qu'elle vous a transmise.
Je ne sais pas si elle m'a transmise. Mais alors qu'elle a empêché ma mère d'assouvir sa passion, qui aurait été d'être pianiste,
oui, hein,
y compris donc ma grand-mère, elle l'a ramenée à Richelieu, où ma mère s'est beaucoup ennuyée jusqu'à son mariage. Bon. Mais donc, elle me disait, écoute, si tu dois te marier, arrange-toi pour que les fiançailles soient longues. Alors j'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, parce que tu verras qu'avec le temps, les défauts s'accusent et les qualités s'émoussent. Alors je n'ai pas osé lui demander s'il fallait tout tester,
voilà,
mais moi, il me semblait que dans le conseil, c'était implicite. Mais surtout, et c'était ma mère qui me disait, surtout pour éviter le malheur, d'abord, il ne fallait pas arriver enceinte dans une famille, parce que pour elle, c'était la honte qui allait s'abattre sur des générations. Elle m'avait dit, pas Backstreet, mais Backstreet, ce n'était pas tant la liaison avec un homme marié que le fait de dépendre de lui économiquement. Bon. Et elle m'avait dit aussi, pour éviter le malheur, c'est le dernier livre, c'était Le Puits de Solitude. Et je lui avais dit, mais qu'est-ce que c'est? Elle m'avait dit, mais tu le liras plus tard. Et Le Puits de Solitude, c'était l'histoire d'une jeune fille anglaise. C'est un livre qui a été publié en 28 et qui découvre qu'elle n'aime pas les hommes, mais les femmes. Et ma mère n'y mettait pas de jugement, mais elle pensait qu'on était forcément malheureuse, parce que dans le livre, la fille ne réussit, la jeune femme, évidemment, rate sa vie. Mais c'est tout ce que me disait ma mère.
Alors, vous dites, Catherine Ney, mon père et ma mère étaient naturellement gaullistes. Son retour en 58, donc à De Gaulle, avait enchanté ma famille. Mais mon père exécrait Jean-Paul Sartre, qui avait déclaré « Tous les anticommunistes sont des chiens ». Comment votre père a-t-il éveillé votre conscience politique, votre intérêt donc pour ceux qui s'abîment ou se subliment dans le pouvoir, puisque chez vous, à table, on ne parlait jamais de politique?
Non, mais il m'en parlait quand même, beaucoup. Non, il ne parlait pas politique, parce que mon frère aîné avait 9 ans de plus que moi. Bon, avec ma mère, ma grand-mère, ce n'étaient pas les sujets qu'on traitait à table. Voilà. Mais mon père, néanmoins, me parlait de Gaulle, enfin souvent en expliquant ce qui fascinait la famille, c'est quand même comment cet homme, par les circonstances et le caractère, ont accompli un geste pareil que de partir pas à Londres et sauver la France, finalement. Et donc, il m'a donné, à travers le récit qu'il faisait de cette épopée gaulliste, l'idée que les hommes, s'ils le veulent, peuvent changer la face du monde, ou en tout cas de la France. Et donc, il m'a donné une vision optimiste. Et moi, je voyais dans les...
D'une certaine hauteur,
Et moi, je voyais dans les gaullistes des héros, parce qu'ils avaient tous fait la guerre. Ils se retrouvaient auprès du général de Gaulle. Et moi, ce qui me fascinait, vous voyez, c'était ces gens que je voyais sortir. J'allais à la sortie du Conseil des ministres, par exemple, je faisais mes études, pour les voir sortir, essayer de capter un regard. J'avais reconnu Malraux une fois, et qu'est-ce que vous voulez, on a les Johnny à l'idée qu'on peut, vous voyez. Bon. Et eux, c'était ça qui me faisait fantasmer, parce que je ne trouvais pas idiot de pouvoir admirer un homme politique à l'époque. Voilà.
Bien sûr. Mais alors, j'en reviens à Sartre. En fait, cette colère de votre père contre Jean-Paul Sartre, qui était anti-gaulliste, a fait que vous, vous êtes passé à côté de Simone de Beauvoir, sans pratiquement lire son œuvre, c'est
oui,
ça?
Oui, mais c'est vrai, oui. Enfin, ça ne m'a pas empêché de grandir et de vivre et
certes,
d'être féministe.
Mais vous n'avez lu ni Le Deuxième Sexe, ni Les Mémoires d'une jeune fille rangée, par exemple, livre qui est sorti quand vous aviez 16 ans.
Oui, mais je ne l'ai pas lu.
Toutes les jeunes filles de votre génération...
Mais pas tellement.
Non, pas tellement.
Pas tellement. Mais
le
justement,
succès de
dans
ce
mon
livre
entourage
est arrivé plus tard.
Oui, peut-être que c'était en province, il est peut-être arrivé plus tard.
Europe 1.
On s'interrompt, c'est en compagnie de Catherine Ney qu'on chemine cet après-midi. A tout de suite.
Europe 1.
Dans ses mémoires intitulées « Souvenirs, souvenirs », la journaliste et grande voix d'Europe 1, Catherine Ney, livre les petits secrets des politiques, mais aussi les moments marquants de sa carrière. Et elle est l'invitée d'Isabelle Morizet jusqu'à 16h cet après-midi. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Alors Catherine Ney, officiellement, Vous êtes partie à l'Assaut de Paris pour préparer HEC. Officieusement, vous ne rêviez que de journalisme, vous nous l'avez dit. Et le magazine qui, à vos yeux, incarnait la forme la plus moderne de journalisme en ce milieu des années 60, c'était l'Express, dirigé par le couple mythique Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud. Mais comment entrer dans un journal où tout le monde rêve d'écrire quand on arrive de sa province et qu'on ne connaît personne? Comment vous êtes-vous débrouillée?
J'avais un plan, je me disais que si je trouvais quelqu'un qui travaillait à l'Express, j'essaierais d'obtenir grâce à lui un stage, ce qui m'est arrivé. Voilà.
Ce qui vous est arrivé? Oui. Bon, alors ok, obtenir un stage au service politique d'un journal, d'accord, pour ne plus en repartir.
Si, j'en suis partie.
J'ai longtemps plus tard quand même.
6 mois, je suis restée à peu près 8 mois. Ils ne m'ont pas gardée parce que c'était Jean Ferniaud à l'époque qui était le patron du service politique, mais qui avait fait toute sa carrière sous la 4e, et à l'Assemblée nationale, il n'y avait que des hommes, et la politique était une chose pour les hommes. Ça, lui, il était macho, hein, ça on peut le dire. Ce que n'était pas Jean-Jacques. Et après, Jean Ferniaud est parti, il était le beau-frère de Jean-Jacques Servan-Schreiber, il est parti, et c'est Claude Imbert qui est arrivé, et ils m'ont fait revenir, voilà.
Alors Catherine Ney, pour vous, à l'Express, justement, il n'y avait qu'une reine, hein, crainte et admirée, Françoise Giroud, qui vous a appris le métier. Par exemple, elle vous a appris que la première phrase d'un article était absolument capitale. Inutile, vous disait-elle, d'avoir du talent à la 5e ligne, si le lecteur vous a lâché à la 4e. Elle en avait d'autres, des mantras de ce genre, dans le journalisme?
Non, elle trouvait que le style devait être pimpant, joyeux, qu'il devait être construit avec une ouverture.
C'est quoi un style joyeux?
Eh bien, plaisant à lire, voilà. Il fallait emporter le lecteur, les faire rire si possible, les intéresser, apporter des histoires. Mais elle était quand même la reine, parce que vous savez, elle écrivait dans l'Express toujours sa chandelle, qui était un tout petit papier à l'ouverture du journal, mais qui faisait...
Donc, très lu, voilà.
Très lu. Mais ça avait l'air ça coulait de source, ça avait l'air tellement facile. On disait, mais elle l'a écrit en une demi-heure. Mais pas du tout, elle y passait la journée. Et puis alors, évidemment, quand elle parlait des politiques, elle les titillait pour être, d'ailleurs, même plus que ça, elle les critiquait, ils en avaient peur. Mais alors, c'était très drôle parce que le journal sortait le lundi matin, moi j'allais à l'Assemblée, tous se précipitaient pour acheter l'Express. Oui. Et ceux qui étaient maltraités par elle n'étaient pas contents, mais ceux qui étaient encore plus malheureux, c'était ceux dont elle ne parlait jamais, vous voyez. Donc c'était... Mais ce pouvoir d'une journaliste et d'un édito, ça n'existe plus aujourd'hui non plus, vous voyez,
oui. C'était... Oui. Voilà. Alors Françoise Giroud vous disait par exemple, si vous voulez comprendre un homme politique, allez donc voir sa mère.
Oui, alors moi je disais qui, pensait à qui? Oh, mais Gaston Defer avait une mère très intéressante. En fait, elle pensait à Madame Émile, qui était la mère de Jean-Jacques, la mère qui n'aimait que son fils.
Jean-Jacques Servan-Schreiber, directeur du journal, fondateur.
Qui trouvait que Françoise et Jean-Jacques avaient fait un enfant qui était l'Express et que ça suffisait. Elle n'aimait pas Françoise, qui avait 9 ans de plus que Jean-Jacques. Elle l'appelait la Turque. Et elle voulait qu'il épouse quelqu'un qui lui fasse des enfants du même milieu social, des mêmes origines que la famille Servan-Schreiber.
Ce qui arrivera plus tard.
Ce qui arrivera plus tard. Et donc, Françoise se sentait pas du tout adoptée par Madame Émile Denise, qui était une femme comme ça, qui en imposait. Elle a été très hiératique, un beau visage, des jambes un peu lourdes comme ça.
La reine Victoria.
La reine Victoria, elle répondait jamais au bonjour, mais si on ne disait pas bonjour, elle le notait, vous voyez.
Mon Dieu.
Et oui, elle... Je continue ou pas, non?
Non, mais c'est passionnant. C'est passionnant parce que effectivement, c'est une mise en abîme du fils. Jean-Jacques Servan-Schreiber, lui, vous dites qu'on le voyait très rarement à l'Express, parce que, en fait, le magazine n'était que l'instrument de son ambition politique. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'était de parvenir à virer le général de Gaulle.
Oui, quand il m'a engagé en 67, il m'a dit de toute façon, de Gaulle, c'est fini. Vous allez vous occuper des gaullistes parce que c'est fini. Alors moi, je disais quand même, le général a été réélu en 65 pour 7 ans. Il est encore là pour un moment, mais moi je lui disais, bon voilà. Et puis finalement, il était visionnaire parce que 2 ans plus tard, de Gaulle n'était plus là. Je n'ai jamais compris son hostilité à ce point au général. Hein, ça,
parce que c'était... Une obsession, en fait.
Ah, c'était une obsession. Il s'est réjoui quand il est parti. Il s'est présenté, déjà, dès 62.
Oui,
Jean-Jacques Servan-Schreiber s'est présenté.
Il rêvait d'une carrière politique.
Il avait rencontré Kennedy.
Alors là, c'est extraordinaire, parce que la mégalomanie de Jean-Jacques Servan-Schreiber, quand même, c'est presque au-delà de l'exceptionnel. J'ai découvert, en lisant votre livre, Souvenir, j'ai découvert qu'en 1962, JJSS, comme on l'appelait, avait osé écrire « Kennedy, je suis dans sa peau, je suis dans son cerveau. Je pourrais vous dire comment bat son cœur, comment il réfléchit, comment il décide. Bref, il a failli écrire, en fait, Kennedy, c'est moi. »
Oui, oui, c'est pour ça que Mauriac, après, l'appelait le Kennedyon. Voilà. Donc, Jean-Jacques a toujours voulu moderniser la France. Il avait assez peu de considération, même pour Pompidou, qui quand même était un Premier ministre, qui est resté 6 ans et qui a modernisé la France et qui, au moins, avait un projet, qui disait qu'il faut au moins que la France ait une grande capacité économique, développe les entreprises, crée des emplois. Et pour lui, 500 000 chômeurs, c'était pas possible. La France ne le supporterait pas, disait-il. Et moi, quand je suis arrivée à l'Express, la France avait 300 000 chômeurs, vous voyez, c'était... Donc c'était un temps...
On rêve, voilà, on rêve. Oui. Mais alors Catherine, entre une Françoise Giroud, fascinante mais ultra exigeante, jalouse, et un Jean-Jacques Servan-Schreiber qui remaniait tous les papiers de ses journalistes pour les amener au plus près de ses visions à lui, n'est-ce pas ? Comment vous parveniez à trouver votre place ?
Ben, quand je suis entrée à l'Express, moi je signais des papiers de temps en temps, hein, 3 feuillets costauds comme on disait, c'est-à-dire un tout petit feuillet, et je racontais l'Assemblée. Donc, mais je ne faisais pas d'édito. Et d'abord, je n'existais pas politiquement comme journaliste.
Pourquoi avez-vous décidé de quitter la presse écrite pour la radio ? Il y a plus d'incarnation à la radio ?
Non, c'est-à-dire que Françoise avait un tel impact sur cette rédaction, l'admirait tellement, elle écrivait tellement bien que, dans le fond, moi, ça me bloquait. Vous voyez, j'avais peur de ne pas pouvoir écrire. Donc, le jeudi matin, avec Michel Cotta, nous arrivions, on avait un petit papier à écrire. Ben, le soir, à 6h, il n'était toujours pas écrit, parce qu'on avait peur, parce que... Enfin, c'était le blocage. Et on allait voir Jacques, on s'asseyait dans son petit bureau, il me disait « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je lui racontais, et 10 minutes après, le papier était écrit. Voilà, je lui disais « Mais écoute, tu as... un stylo greffé à ton cerveau. »
Alors, on n'écrit pas un texte destiné à être lu à l'antenne, donc à voix haute, comme on écrit pour un magazine. La radio a transformé votre plume, Catherine Ney ?
Mais c'est pas qu'elle l'a transformé, c'est que quand je suis entrée à la radio, je me suis dit, si je reste dans un hebdo, je n'écrirai jamais. Tandis que vous arrivez à la radio, si on vous dit votre papier est à 12h05, eh ben vous ne dites pas, attention, il sera, attendez-moi, je serai prête à 12h20. Donc, vous vous lancez. Vous voyez, c'est comme ça que je me suis lâchée. Et c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même écriture. Mais j'avais quand même retenu les leçons de Françoise. C'était souvent des papiers quand même très construits. Vous voyez. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand je suis arrivée à Europe, dans le service politique, nous étions, mon chef était Gérard Carrérou, on partait ensemble dans les congrès et on racontait la politique, mais on n'avait pas les mêmes angles. Voyez, on ne voyait pas les mêmes choses. Gérard Carrérou, c'était toujours les rapports de force politique et moi, je racontais les rapports de force humains entre les uns et les autres. Voyez, c'était deux versions d'une même réalité.
On retrouve tout de suite Catherine Ney.
Europe 1. Europe 1. Et la conversation entre Isabelle Morizet et Catherine Ney se poursuit jusqu'à 16h. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Je reçois une vraie enquêtrice politique, éditorialiste historique d'Europe 1, qui fait paraître chez Robert Laffont son autobiographie passionnante, Souvenir, Souvenir. Catherine Ney, au début du chapitre sur mai 68, vous écrivez « Il était une fois, à Nanterre, une poignée d'étudiants qui réclamaient le droit d'accès des garçons aux résidences des filles. » Un pic hormonal bien de leur âge. On a donc oublié que mai 68, en fait, qui a engendré 9 millions de grévistes avec tous les aéroports fermés, plus aucun transport, des coupures sauvages et fréquentes d'électricité, les Parisiens qui faisaient des stocks de conserve, le chaos général au point que même les croque-morts étaient en grève, eh bien mai 68 donc a pris forme parce que en janvier de cette année-là, Cohn-Bendit hurlait au ministre des Sports venu inaugurer une piscine sur le campus de Nanterre que c'était une méthode hitlérienne, je dis bien hitlérienne, destinée à détourner la jeunesse vers le sport plutôt que d'assurer son équilibre sexuel. C'est une réalité, ça a commencé comme ça.
Oui, ça a commencé comme ça. Mais Cohn-Bendit avait déjà été repéré par le recteur parce qu'il, à Nanterre, il empêchait les cours de se tenir, il était insolent, apostrophait les professeurs, disait qu'il fallait bannir les examens. Enfin, il disait une somme de sottises. Mais certains étudiants étaient amusés par lui parce qu'on s'ennuyait beaucoup à Nanterre hors des cours. C'était quand même une université
assez psychorigide quand même l'époque.
Comment
du général. On était dans une une France psychorigide.
Bah oui, mais quand vous voyez un gamin qui hurle comme ça dans couloirs, qui prend les ascenseurs des professeurs, qui va boire le vin du recteur dans ses aplats et qui couvre de tags
le recteur d'ailleurs, Catherine Ney, était un ancien résistant, n'est-ce pas, ayant connu les geôles et les interrogatoires monstrueux de la Gestapo. Et il était dépassé par Cohn-Bendit.
Mais parce qu'il créait un chahut permanent et c'était insupportable. Et il aurait voulu, puisqu'on dit qu'il était allemand, il fallait l'expulser. Donc,
et pourquoi ne l'a-t-il pas été ?
Mais il ne l'a pas été parce que les gaullistes voulaient l'expulser. Mais Cohn-Bendit avait pris un avocat pour expliquer qu'en fait il était né en France, de parents qui avaient fui le nazisme en Allemagne. Son frère était français. Et il a voulu rejoindre son frère qui habitait, Gabriel, qui habitait la France.
Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'en mars, je dis bien mars 68, le chef du service politique du Monde, hein, je précise bien le Monde, écrit « La jeunesse s'ennuie, les étudiants manifestent, bougent, se battent en Espagne, en Italie, en Algérie, au Japon, en Pologne, en Allemagne, en Amérique. Ils ont le sentiment d'avoir des conquêtes à entreprendre. Chez nous, écrit le chef du service politique du Monde, et ben chez nous, les étudiants se préoccupent de savoir si les filles de Nanterre et d'Antony pourront accéder librement aux chambres des garçons. Conception, malgré tout, limitée des droits de l'homme.
Mais en effet,
alors, j'aimerais savoir, comment se fait-il que l'histoire ait donné un statut de héros à Cohn-Bendit, dont les colères, au départ, et c'est souligné par Le Monde, étaient quand même assez éloignées des droits de l'homme ?
Oui, c'est sa vitalité qui en a fait un chef d'un mouvement qui n'était pas constitué, mais des jeunes qui voulaient tout casser, brûler des voitures, ce qui leur sera d'ailleurs beaucoup reproché. Et moi, je trouvais que c'était... Cohn-Bendit, je le prenais vraiment pour un grand braillard. Il n'a pas été expulsé, mais il a quand même commis la faute, parce qu'à force de créer du désordre partout... il est parti en Allemagne parce qu'il sentait bien qu'à un moment, que faire de ce mouvement dont il était le leader ? Il est parti où il a dit que le drapeau français devait être remplacé par un drapeau noir. Donc, ça a été l'occasion pour le ministre de l'Intérieur pour dire, écoutez, maintenant vous êtes parti, vous ne rentrerez plus. Il était interdit de séjour. Et on n'a plus vu Cohn-Bendit pendant 10 ans en France.
Alors, Catherine Ney, le 30 mai 1968, lorsque parmi 1 million de personnes, à la tête desquelles André Malraux et François Mauriac, vous avez remonter les Champs-Élysées pour manifester votre soutien à De Gaulle, vous vous doutiez de l'épilogue funeste que vous prédisait d'ailleurs votre patron Jean-Jacques Servan-Schreiber, c'est-à-dire que moins d'un an plus tard, De Gaulle irait s'enfermer pour toujours à Conlobet et avec lui un certain monde, une époque, une certaine France disparaîtrait.
Oh ben absolument pas, non, au contraire, c'était la victoire du camp de ceux qui avaient développé la France contre les fous, enfin les insurgés de mai 68. Et vous voyez, au moment où mai 68 éclate en France, à peu près dans tous les pays, on voit les mêmes scènes avec des jeunes échevelés qui crient contre la police. Mais la France est le seul pays qui a eu un impact politique avec, finalement, le général de Gaulle était parti 2 ans plus tard. Ça, c'est vrai, c'est les conséquences de mai 68. Et ça, qui pouvait le dire, absolument personne.
De Gaulle et Pompidou avaient formé, pendant toute cette période-là, un duo complexe. Hein. Mais vous écrivez que, sous la Ve République, vraiment, il en a toujours été ainsi entre un président et son Premier ministre, et leur séparation se fait toujours dans la douleur. C'est comme une histoire de couple, c'est ça ?
Ah bien sûr, l'histoire de la Ve République se raconte comme une histoire de couple. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le premier ministre du général, c'était Michel Debray, et le général n'en pouvait plus, au bout de 3 ans, des leçons de morale de Debray, et il s'est séparé de lui parce qu'il n'en pouvait plus. Et au bout de 3 ans, alors qu'il adorait Pompidou, eh bien, au bout de 3 ans, il reprochait à Georges Pompidou, au fond, le contraire de ce qu'il reprochait, c'est-à-dire de n'en faire pas assez, de ne pas vouloir vraiment choisir la sélection à l'université, qui était la grande idée du général de Gaulle. Donc, mai 68, après 6 ans de vie commune, a marqué quand même l'acmé de leur désaccord. Ils ne se supportaient plus mutuellement. Voilà.
Alors, après la présidence de Pompidou, vous, Catherine Ney, dont l'inclination politique penche plutôt à droite, vous reconnaissez, en 74, avoir voté pour Mitterrand contre Giscard. Pourquoi ?
Mais parce que Giscard m'insupportait. D'abord parce que je n'aimais pas son style. Et j'avais trouvé que pendant la maladie de Pompidou, on savait qu'il y aurait 2 candidats possibles, ou Chaban ou lui. Eh bien, la façon dont il a démoli Chaban, en faisant sortir l'histoire de son avoir fiscal qu'il avait lui-même créé, en faisant courir par ses amis des choses incroyables. Il y avait quand même, pendant la campagne présidentielle, des bandeaux en France sur les murs où on voyait Chaban assassin. On l'accusait d'avoir tué sa femme qui était morte dans un accident. Il y avait des lettres qui étaient envoyées au maire où on disait Chaban est juif. Vous voyez, donc tout ça. Et dans le dimanche à la messe, dans l'Ouest, des curés en chair disaient qu'il était divorcé, qu'il valait mieux voter pour un homme comme Giscard, bien sous tout rapport. Mais oui, c'était possible, c'était ça. Et moi, j'avais trouvé que cette campagne, voyez-vous, de Giscard avait été pour moi nauséabonde. Et je ne l'aimais pas du tout. Et surtout, ce qui m'agaçait, c'est que plus Pompidou était malade et on voyait son physique se défaire, le visage tuméfié par un excès de prise de cortisone, et bien plus Giscard se montrait. Et avec lui, le corps est entré dans la communication. Vous voyez, on le voyait sur un terrain de football, en maillot de bain. Enfin, montrer, regardez comme je suis beau, comme je suis désirable, comme je suis en bonne santé. Enfin, il a inventé d'ailleurs le naturel guindé, parce que vous voyez, il était toujours un peu raide. Il incarnait la modernité, et je le trouvais insupportable. Je m'étais dit, s'il a trop de voix, il va être insupportable. Donc, j'avais voté Mitterrand.
Alors, juste avant de faire une pause, Catherine, j'ignorais, et je l'ai découvert, ça aussi, dans ce livre baptisé Souvenir, que Giscard avait conspiré auprès d'Helmut Schmidt, en raison du passé de Simone Veil, pour qu'elle soit la première femme présidente élue du Parlement européen. Beau geste. Et vous étiez dans le train qui vous amenait à la cérémonie d'investiture en compagnie de son mari, Antoine Veil, qui lui avait d'ailleurs écrit son discours. En fait, la carrière politique de Simone Veil avait dépossédé son mari de la sienne.
Mais le couple Veil, vous savez, quand Simone était magistrate ou même directeur de l'administration pénitentiaire, son mari, qui travaillait dans le privé après avoir été haut fonctionnaire, ambitionnait de faire de la politique. Je crois qu'il avait essayé d'avoir une candidature. Et donc, quand Simone est entrée comme ministre, eh bien, il savait que sa carrière, ses ambitions s'envolaient. Bon, Simone n'était pas une grande oratrice. Elle rayonnait parce qu'elle avait cet impact physique, sûrement son passé douloureux qui faisait que on la respectait, elle avait une force comme ça, puis ce beau visage plein avec ce regard vert. Quand elle vous fixait, sans vous voir un peu comme un chat, on se disait, mais ses yeux ont vu ce qu'on ne voudrait jamais voir. Donc, je veux dire, sa force, elle résidait là surtout. Mais bon, et donc, quand elle a été élue présidente du Parlement, c'est Antoine qui a écrit son discours et qui se baladait auprès des journalistes en disant, j'espère qu'elle le lira bien, c'est mon discours, quoi. Vous voyez, ce qui était un peu machiste n'est pas très vrai.
Ce qui était un peu
mais
macho.
Mais il était comme ça et elle avait bien lu son discours.
On retrouve tout de suite Catherine Ney.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Europe 1. 15h46 tout pile, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. La suite sur Europe 1 avec Isabelle Morizet et son invité.
Je reçois l'impératrice du journalisme politique qui sait tremper sa plume dans le romanesque sans jamais dénaturer la vérité. Catherine Ney publie Souvenir chez Robert Laffont. Catherine Ney, vous écrivez, Charles de Gaulle voulait héroïser les Français, Georges Pompidou les rassurer, Giscard les séduire et apparaître comme un homme moderne. Et Mitterrand, lui, que voulait-il, en fait ?
Succéder à De Gaulle et changer la vie, leur apporter le bonheur comme il n'avait jamais eu, c'est-à-dire ouvrir grand les cordons de la bourse et faire son programme qu'on a tous connu en 81. C'était ça. Parce qu'il savait qu'il n'arriverait pas au pouvoir sans une alliance avec les communistes et que les communistes n'adhéreraient pas à sa candidature s'il n'arrivait pas à un programme très dépensier. Voilà, c'est ça.
Le fluide glacial de Mitterrand vous impressionnait, mais vous reconnaissez que c'était un chef. Pourquoi dites-vous que être un chef est finalement une qualité très très rare en politique alors que tous prétendent l'être ?
C'est le général de Gaulle qui disait qu'on a très rare sont les personnes qui ont le fluide de l'autorité. Et c'est vrai, de Gaulle l'avait sans conteste, Pompidou lorsqu'il arrivait Premier ministre dans les couloirs de l'Assemblée, alors c'est presque encore, c'est vrai, un souvenir adolescent, mais tout de même, je veux dire, on voyait les députés, ils se tassaient tellement ils le craignaient, il avait ce regard comme ça, qui les transperçait, ce regard vert qui était, il pouvait être tendre, mais très cruel aussi, vous voyez, ils en avaient peur, il n'y avait pas de quoi au gouvernement avec Pompidou, vous voyez. Mitterrand, pareil, il faisait régner la terreur dans son parti, et qui n'était pas d'accord avec lui était vite rejeté à l'extérieur, vous voyez.
Pour la petite histoire, Mitterrand n'avait jamais un sou sur lui, hein, ce qui coûtait d'ailleurs cher à ses proches. Pas de quoi payer un café, un taxi, un restaurant, même les cadeaux qu'il offrait étaient réglés par ses amis.
Non, mais ça, c'est l'histoire que je raconte.
J'ai découvert ça dans votre livre.
Oui, oui, c'est un jour, il devait dîner avec André Rousselet, qui a été son directeur de cabinet à l'Élysée, qui était le patron du G7, qui a été assez fortuné. Et il voit sa compagne. Il devait dîner avant Noël avec, je pense, ça devait être Anne Pinjot, la mère de sa fille. Et il avait vu Catherine, qui était la compagne de Rousselet, et qui avait un très beau twin set, qui avait dit « Ah, ça c'est très joli, où l'avez-vous acheté ?» Elle avait dit « Chez Hermès, ah, ma petite Catherine, pourriez-vous aller l'acheter, le même, dans une autre couleur, mais... et puis pour l'offrir au dîner, puis bien sûr, je vous rembourserai. » Et donc, elle a acheté le paquet, juste avant le dîner, elle le lui donne, et alors là, elle était incroyable. Pendant le repas, Mitterrand disait à la jeune femme, qu'elle n'a pas nommé, qu'il avait été l'acheter chez Hermès, qu'il avait hésité sur la couleur, qu'il était sûr que la taille devait aller.
En fait, c'est merveilleux.
Il se racontait chez Hermès alors qu'il n'y avait pas mis les pieds. Et bien sûr, il n'a jamais remboursé Catherine. Voilà.
Voilà, voilà. Alors, voilà. Chère Catherine Ney, un samedi de l'année 82, vous faisiez du shopping dans Paris quand vous découvrez, derrière la vitrine d'un magasin de chaussures, François Mitterrand qui s'émerveille à faire des essayages à une petite fille de 8 ans. Sa fille cachée, Mazarine. Bon, tous les médias étaient au courant, mais Mitterrand, président, a réussi à imposer le silence pendant 14 ans. Les Français ont tout ignoré de cela pendant 14 ans. Totalement impensable aujourd'hui.
C'est impensable aujourd'hui et c'est incroyable de penser que lorsque j'ai fait Le Noir et le Rouge, c'est-à-dire la biographie, je savais parfaitement que Mazarine existait, mais chacun mettait son point d'honneur. C'était une déontologie journalistique de l'époque de ne pas raconter l'existence de cette petite fille, puisqu'il ne voulait pas que ce soit connu. Donc, bien sûr, je me suis trouvée face à ce président qui faisait essayer une paire de chaussures à sa petite fille qui devait avoir 8 ans à l'époque. Mais que pouvais-je faire de ça? J'avais pas de portable pour prendre des photos. Si j'avais appelé un photographe de mes amis le temps qu'il arrive, peut-être que Mitterrand serait parti. Mais surtout, qui aurait passé la photo? Personne. La presse People n'existait pas. Et les directeurs de journaux, je peux vous dire, n'auraient Paris Match à parler de Mazarine par un accord conclu avec Mitterrand, avec
donc,
la photo.
Ce système donc, pyramidal pour tenir le silence fonctionnait par la terreur.
Sûrement, oui, sûrement. Mais c'était possible parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas... Mitterrand, il pouvait être libre, il pouvait se promener dans la rue avec Anne Pinjot, il n'y avait pas de photographe. Voyez, Mitterrand était un des grands, un des derniers.
De la même façon que Jacques Chirac est allé visiter le Taj Mahal en compagnie.
Non, le Taj Mahal, c'était un voyage officiel avec Bernadette où il y avait un quart de journaliste et comme il marche plus vite que Bernadette, il a fait le tour de l'esplanade du Taj Mahal
avec sa maîtresse de l'époque,
qui était Jacqueline Chabridon.
Mais c'est impensable aujourd'hui.
C'est impensable aujourd'hui.
Nous sommes d'accord.
Nous sommes d'accord.
On retrouve tout de suite Catherine Ney.
Europe 1. Et on retrouve Isabelle Morizet, son invitée, la journaliste politique et grande voix d'Europe 1, Catherine Ney, qui fait paraître chez Robert Laffont une autobiographie, Souvenir, souvenir.
Catherine Ney, toutes les journalistes politiques n'ont pas pour compagnon un homme politique. Or, c'est votre cas depuis un demi-siècle, car l'amour de votre vie fut l'un des grands acteurs de la Ve République, Albin Chalandon, ministre de l'Équipement et du Logement, puis garde des Sceaux. Vous avez donc vécu ensemble, j'ai envie de dire, de l'intérieur, l'histoire de cette Ve République. Et même quand on s'aime et qu'on a la même sensibilité politique, on n'est pas d'accord sur tout. Albin Chalandon a souvent commenté vos éditos, vos articles dans la presse, vos livres.
Oh non, il était très content. On discutait beaucoup. En général, il était assez louangeur, oui. Mais alors, je vais vous dire, quand je faisais des éditos tôt le matin, il dormait. Il est dormait encore.
Il ne vous écoutait pas.
Non, il ne m'écoutait pas. Mais je ne lui en voulais pas, c'était comme ça.
Ou bien vous pensiez qu'il ne vous écoutait pas.
Non, je vous jure, je rentrais à la maison, il dormait. Et c'était comme ça. Mais en revanche, pour les livres, il les avait lus et c'est lui qui m'avait dit qu'il fallait que j'écrive des livres. Parce que je raconte au début de notre histoire, évidemment, il allait tous les samedis soirs dans sa famille avec les enfants. Et quelquefois, je râlais parce qu'il s'en allait. Il me disait, tu n'as qu'à écrire un livre. Et d'ailleurs, ça a été le meilleur conseil.
Pour passer le temps,
voilà,
c'est ça.
C'est ça. Et donc, j'ai écrit des livres et il était très content. Moi, je ne lisais pas non plus tous les papiers qu'il faisait, mais on parlait tout le temps et on rencontrait les... Mais on était d'accord sur le fond.
Donc, les convictions de l'un finissaient par infuser l'autre.
Oui, mais enfin, moi, je... Si vous voulez, quand lui, il avait une opinion économique sur des programmes, et moi, honnêtement, au début, je n'avais pas d'idée. C'est lui qui m'a formée à une certaine culture économique et qui m'a ouvert l'esprit sur des sujets de la politique étrangère que spontanément auxquels je ne me serais pas sans lui intéressée, voyez.
Mais compliqué face à la gauche d'être la compagne d'un homme politique de droite?
Non, parce que d'abord au départ je m'occupais surtout de la droite, alors je pouvais voir les gens de gauche, mais c'était assez amicaux. Mais quand la gauche est arrivée au pouvoir, c'est vrai qu'ils me considéraient comme une journaliste de droite, et avec certains ça a été difficile, comme avec Pierre Joxe qui me disait vous méprise.
Ah oui, oui, c'est allé jusque là.
Oui, parce que j'avais dit que, vous savez, quand en 81 tous les barbus, parce qu'à l'époque sur la majorité les trois quarts étaient des enseignants. Vous voyez, venus du monde enseignant. Mmh. Donc, ils sont arrivés à l'Assemblée, et il y avait une collection de barbus, des courtes, des longues, et tout ça. Et les huissiers avaient dit, mais comment on va les reconnaître, hein, parce que... Et j'avais raconté qu'ils ressemblaient tous à un député barbu qu'on connaissait jusque-là.
Ça n'avait pas du tout plu à Joxe.
Ça n'avait pas plu à Joxe, il m'avait dit « je vous méprise », enfin qui était vraiment quelqu'un qui avait un caractère assez difficile, avec qui je ne me suis jamais entendue. Bernadette Chirac me disait que lorsque Jacques Chirac avait été envoyé en Algérie avec son mari, enfin après avoir fait l'ENA, elle était à Alger avec lui, et Joxe y faisait son service militaire. Souvent Joxe venait dîner chez eux, elle faisait la cuisine, et après, des années plus tard, quand elle l'a revu, il ne lui disait pas bonjour parce qu'il était très sectaire. C'est-à-dire qu'il y avait le bien et le mal. Le bien d'un côté, c'était la gauche, et la droite, c'était le mal.
Belle personne. Bon, comment voyez-vous se dessiner cette seconde moitié de quinquennat d'Emmanuel Macron?
Ce qu'il parle, nous sommes arrivés à l'hémistiche, a-t-il dit, bon, parce qu'il aime les mots précieux, oui, alors que c'est de la poésie.
Oui.
Écoutez, pour l'instant, je ne le vois pas. Je pense que ça va être difficile, parce que comment va-t-il se tirer de l'épisode actuel de la réforme des retraites? Bien, il y a beaucoup de points de suspension avec le départ de M. Delvoye qui va le remplacer, parce qu'il était le seul à connaître tous les secrets de cette réforme si difficile à expliquer et dont chacun ne sait pas encore ce qu'il attend pour la suite. Vous voyez, qui va rassurer les Français? Je pense que déjà... On sait que certaines personnes, et on s'en réjouit, vont y gagner, comme les femmes qui ont élevé des enfants, des femmes seules, les agriculteurs, tous ces gens qui vivaient très mal au moment de la retraite, ça ira mieux pour eux. Bon. Mais ceux pour qui ça n'allait pas trop mal, ça ne va pas forcément aller mieux, même peut-être pire. Est-ce que ça sera accepté? Est-ce que les Français, dans 2 ans, lui renouvelleront la confiance? Et c'est un tapis de bombe, hein, cette réforme. C'est très audacieux.
Donc vous avez un métier passionnant. Catherine Ney, votre livre, Souvenir, s'achève en 95 sur l'élection imprévisible de Jacques Chirac face à Balladur, qui, quelques mois plus tôt, était plébiscité par 75% des Français, n'est-ce pas? C'est ça, la magie de la politique. Mais, comme ce livre s'arrête donc sur l'année 95, il nous manque, dans votre autobiographie, un quart de siècle que vous n'avez cessé de commenter ici, à Europe 1. Alors, à quand le tome 2?
Bien, je vais commencer en janvier. Je vais en commencer en janvier, oui.
Voilà, donc...
Et il sera terminé.
Tout s'organise, s'éclaircit dans votre tête. Vous avez la première phrase?
Pas du tout.
Pas du tout. C'est important, la première phrase.
Absolument.
N'est-ce pas, comme vous le répétez, François Giroud?
Absolument. Mais je ne l'ai pas encore.
Mais vous ne l'avez pas encore. On attend ce tome 2. Souvenir vient de paraître chez Robert Laffont. Merci infiniment, Catherine Ney.
C'est moi qui vous remercie, Isabelle.
À bientôt.
À bientôt.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet revient bien sûr dès le week-end prochain, 15h sur Europe 1. Elle remontera le fil des souvenirs en compagnie du compositeur Vladimir Cosma et de Francis Lalanne, qui fête ses 40 ans de carrière. Il arrive, Mathieu Noël et son équipe est sauvage. C'est dans un instant. Europe 1.